Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire. Vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette sixième émission, nous avons le plaisir d'accueillir Marion Sigaud. Marion, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'avoir accepté de venir ici, dans les studios de ERFM. Vous êtes historienne, écrivain, vous êtes même un auteur assez prolifique puisque vous avez publié, disons-le, de nombreux ouvrages, publiés pour certains chez les éditions Contre-Culture. Je citerai les derniers d'entre eux, La chasse aux sorcières et l'Inquisition, De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, La mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau. Ces trois livres forment une collection spécifique intitulée Les manuels d'histoire de Marion Sigaud. Vous avez également déboulonné le mythe de Voltaire dans votre livre Voltaire, une imposture au service des puissants. Mais aujourd'hui, Marion, nous allons parler de la République et en particulier de sa naissance en France. Nous y reviendrons tout de suite. Chers auditeurs, vous avez été nombreux à regretter le peu de temps laissé la semaine dernière à Pierre de Brague. Rassurez-vous, nous aurons l'occasion de le réinviter prochainement, si Pierre est d'accord, bien sûr. Comme chaque semaine, je suis accompagné de mon affidé Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour.
Bonjour Vincent, bonjour Marion, bonjour à tous.
Alors Xavier, avant de parler d'histoire, tu vas nous faire une interview bio de Marion Sigaud. La parole est à toi.
Oui Marion, vous avez écrit beaucoup de livres, Vincent l'a rappelé, mais vous avez aussi écrit des livres relatifs au conflit israélo-palestinien.
Oui, c'est pas tout à fait ça. C'est des livres racontant mon expérience entre Israéliens et Palestiniens, entre Israël et Palestine, dans les années 70 jusqu'aux années 80. Voilà.
C'est une expérience intéressante et oui. Vous avez vécu en Israël. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, raconter ce passage, ce parcours, l'évolution, vous qui avez vécu ça de l'intérieur?
Alors, si vous voulez, je vous en parle pendant 10 heures, il y a matière. Hein, donc, si, il faut faire court, parce que je pense qu'il faut faire court, au moins sur ce sujet, puisqu'il y en a beaucoup d'autres derrière. Je suis arrivée à l'âge de 21 ans dans un kibboutz au début des années 70, voilà. Le kibboutz, c'était la vitrine socialiste de l'État d'Israël, c'était le mode collectif de culture de la terre, et j'ai toujours été une, je peux pas dire une fan, mais disons extrêmement attirée par la vie villageoise, la vie communautaire, la vie à la campagne, et en allant par curiosité rencontrer le kibboutz, j'ai eu une espèce de coup de foudre à la fois pour ces gens qui étaient merveilleux, pour ce mode de vie qui était ce à quoi je rêvais, et puis pour ce jeune état naissant qui avait pour beaucoup de ma génération les yeux de chimène à l'époque. Hein. Israël, c'était le socialisme. Moi, j'étais très très à gauche. Hein. Je le suis resté très longtemps, mais cette époque-là, c'était vraiment l'époque où c'était en plein. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait le drapeau rouge sur le château d'eau. Le 1er mai, on travaillait pas, on défilait. Enfin bon, je suis tombé en plein pays socialiste, et moi, à l'époque, c'était ça qui m'intéressait. Mais ça n'est pas ça qui a fait mon enthousiasme. Ça, c'est ce qui m'a attiré. Ce qui a fait mon enthousiasme, c'est un mélange de vie quotidienne merveilleuse, vraiment merveilleuse. C'est-à-dire que la vie communautaire telle qu'elle était organisée au kibboutz, je trouvais ça absolument génial. Et je maintiens que c'était, en tout cas pour les gens qui étaient dedans, pas pour les gens qu'on avait chassés pour que ça se passe. Hein. Ça, c'est ce que j'ai découvert par la suite. Et également pour des raisons personnelles, parce que j'étais une personne absolument déchirée, et ça sera pas le sujet ici, mais vraiment, je peux dire que si je n'avais pas connu le kibboutz, je sais pas comment j'aurais tourné. Je pense que il y avait vraiment matière à ce que je tombe en décadence, en déchéance, et ça n'a pas été le cas, je veux dire. J'ai vraiment trouvé des gens qui m'ont permis de réveiller des véritables valeurs, notamment les valeurs de travail, qui avaient été mises à mal par le souffle brûlant et satanique de mai 68, au milieu duquel je m'étais trouvée quand même.
Et vous êtes resté combien de temps au kibboutz ?
La première fois 3 mois, la deuxième 10 mois, et les fois suivantes une fois 2 mois, une fois 6 mois, une fois j'y allais tout le temps quoi. Et quand j'y allais pas, c'est eux qui venaient. Donc j'ai été pendant des années à pratiquer l'hébreu sans jamais l'avoir appris. Et quand j'allais pas là-bas, soit en vacances, soit en séjour d'hiver, je recevais à la maison absolument tout le monde. Donc c'est une relation très très intense qui a duré de 1972 jusqu'à 88-89. Après, j'y suis retourné un petit peu par intermittence, mais en gros, c'est ça. C'est cette période-là. Donc, je n'y ai jamais vécu pour de bon. J'ai toujours eu qu'un visa de touriste de 3 mois renouvelable. et 3 mois renouvelables une fois, et puis après je rentrais à la maison. Donc je n'y ai jamais vraiment vécu, mais j'étais comme un poisson dans l'eau là-bas. D'abord je parlais la langue, à la fois je parlais la langue et puis j'avais la vision extérieure, c'est-à-dire que j'arrivais à lancer les gens sur des confidences qu'ils n'auraient pas faites à quelqu'un qui aurait été du cru. Ils savaient que j'étais pas juive et ça les dérangeait absolument pas, et ça je signe, hein, je maintiens, je persiste et signe, ils s'en fichaient comme de l'an 40. Et ça me donnait une espèce de position privilégiée, à la fois pour observer et pour déclencher des confidences. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de confidences de beaucoup de gens. Ce qui m'a permis d'écrire du kibboutz à l'intifada, qui a été vraiment le début de mes gros, gros, gros emmerdements. Je peux dire des gros mots un petit peu comme ça?
Bien sûr.
Non, parce que quand je dis des gros mots, il y a des gens qui disent, ma femme, Marion, vous, comment osez-vous? Bah, si, ça m'arrive quand même.
Du kibboutz à l'intifada, disponible chez Contre-Culture.
Alors, du kibboutz à l'intifada s'appelait au début Les Deux Cœurs du Monde, sous le titre du kibboutz à l'intifada. Il est paru chez Flammarion en 1991. Et à peine a-t-il été envoyé en service de presse que le ciel m'est tombé sur la tête, les rendez-vous de presse ont été annulé, le livre était en devanture des librairies, il a été sorti, il a été pilonné jusqu'au dernier, j'ai commencé à recevoir des menaces, etc. Enfin bon, ça a été, dès que Marion Sigaud est arrivée en pointant le bout de son nez en disant j'ai des choses belles et dures, à la fois belles et vraies et dures à dire sur Israël et sur les Palestiniens, parce qu'au moment où j'ai sorti le livre, j'avais déjà commencé à connaître l'autre face de la pièce, c'est-à-dire que par amour précisément pour mes amis du kibboutz, j'ai voulu connaître le point de vue des Palestiniens, puisqu'ils devaient arriver à Riva. J'ai voulu les connaître, je les ai rencontrés, je les ai compris, puis la vérité m'est apparue, la vérité qu'on me cachait est apparue. Donc voilà.
Et donc vous qui avez vécu cette utopie socialiste, ouais, laïque, quel regard portez-vous sur la situation actuelle? Quel a été le déclic? Comment...
Le déclic de quoi? Le renversement? Bah, je pense que le kibboutz vivait sur une contradiction fondamentale. Si on fait le socialisme, on fait le socialisme avec les gens qui sont là. On commence pas par en chasser certains et puis de faire le socialisme avec les autres. Moi, j'ai vécu, quand j'ai découvert la réalité du kibboutz, je pense que petit à petit, les Israéliens l'ont découverte aussi. Les Palestiniens, jusqu'en 87, c'était les Arabes, c'était flou, c'était vague, c'était ailleurs, c'était plus loin. Et à partir de 87, premier soulèvement qu'on a appelé l'intifada. Intifada, ça veut dire soulèvement. Hein. Le premier soulèvement palestinien qui est parti de Gaza un mois de décembre 1987 et ensuite qui a embrasé les territoires de Cisjordanie. Là, les Israéliens ont commencé à comprendre que le rêve était fondé sur un cauchemar, et il y a plusieurs attitudes à avoir. Soit face à ces contradictions, on essaye de voir la vérité et puis on combat et on choisit le bon bord. Soit on se met la tête dans le sable et on s'enfuit vers le fanatisme, vers le repli sur soi. Et je pense que c'est le choix qu'a fait l'État d'Israël.
4 ans après, c'est l'assassinat d'Isaac Rabin.
Isaac Rabin, oui. Oui. Alors lui, je pense que Yitzhak Rabin avait compris. C'était un soldat. Alors Yitzhak Rabin, il faisait vraiment partie de cette génération qui avait créé l'État d'Israël. Et il était assez proche des gens que... Enfin, ses proches, ils n'étaient pas copains, mais ils étaient en tout cas du même parti. C'était la gauche israélienne. Des gens qui, à la fois, avaient fait leurs preuves comme militaires, comme gens susceptibles de défendre leur pays, mais qui, à un moment donné, avaient compris, parce qu'il y a eu quand même un choc, qu'à partir du moment où l'intifada a explosé, ben, l'autre, on ne pouvait plus le cacher, quoi. Et Yitzhak Rabin, je crois, avait compris que les Arabes étaient là, qu'ils ne partiraient pas, et qu'il faudrait faire quelque chose avec eux. Puis il n'a pas eu le temps de s'en rendre compte longtemps. Hein. Il a vite, vite sauté. Et je pense que les Israéliens ont été, enfin les Israéliens de bonne foi, ceux qui croyaient véritablement qu'ils allaient créer un socialisme là-bas, ont été les victimes d'une arnaque absolument énorme. Il n'a jamais été question de créer le socialisme. On les a attirés. Le socialisme, c'est ce qu'on a agité pour les attirer là. Et le but, ça n'a jamais été de faire la justice avec les populations locales. Le but, c'est poussez-vous de là que je m'y mette. Et à mon avis, les Israéliens eux-mêmes comme peuple sont menacés du jour où on n'aura plus besoin d'eux pour occuper la place, c'est-à-dire le jour où le plan de domination n'aura plus besoin d'eux, on s'en débarrassera et ça sera pas dur, il suffira de lâcher les digues. Il y a quand même des millions et des millions d'Arabes qui le jour où la force changera de camp, j'aimerais pas être
la balance démographique notamment.
Oui, pas uniquement. Il y a un moment où, je pense qu'il y a un moment où le grand protecteur, Israël n'est rien sans l'Amérique. Le jour où l'Amérique n'aura plus ses intérêts dans ce sens-là, il y en aura pour quelques jours. Je pense. Mais ce qui ne veut pas dire que le système de domination ne pourra pas perdurer ailleurs. Mais je pense que la population juive israélienne est là comme élément de réalisation d'un plan qui n'est pas pour eux, dont ils sont
Vous diriez que
les
c'est
enjeux,
un...
les presque les victimes, quoi.
Enfin, vous diriez pas que
les
c'est un encore. Ghetto oui, à grande
oui,
échelle.
Oui, oui, oui. C'est vraiment un truc dans lequel ils sont enfermés. J'ai senti à un moment donné que j'ai eu l'impression à un moment donné que la conscience de ce qui se passait pouvait les atteindre et la mort de Rabin, j'ai l'impression que ça a fait un bouleversement. Israël est devenu Israël est passé d'un pays qui faisait valoir des idées humanistes. On disait l'humanisme d'Israël. Maintenant, on s'embrasse même plus de ça. Je veux dire, maintenant, on casse la gueule à des enfants devant les caméras. Ils s'en foutent, quoi.
Et l'arrivée de Netanyahou.
L'arrivée de Netanyahou, ça a été le libéralisme à tout cran, quoi. Le libéralisme, le capitalisme sauvage, tout ce qui était. Israël était un pays très très social. Il y avait des syndicats qui étaient très puissants. Il y avait un niveau de protection sociale qui était extraordinaire. Je veux dire, on était malade, on se faisait soigner. La protection maternelle et infantile. Enfin, je veux dire, c'était un pays qui était social, social, social. Je pense qu'il reste plus rien. Les écoles, moi, j'ai vu les écoles se dégrader. J'ai entendu des Israéliens dire, regarde maintenant, on diminue les heures de cours de nos enfants, et si on veut qu'ils récupèrent un cours d'anglais, un cours d'histoire, il faut payer. C'est-à-dire, je l'ai vu, parce que je parlais suffisamment bien l'hébreu, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, pour parler avec des gens simples, des gens qui disaient, nous on est venus ici, on aime bien notre pays, on est israélien, on est patriote, et puis regarde comment la patrie nous traite. Et le grand tournant de ce bouleversement où j'ai senti que beaucoup de gens dans la population sentaient que leur état n'était pas pour eux, c'est quand ils ont fait venir des centaines de milliers de Russes. Parce qu'on a fait venir des centaines de milliers de Russes au début des années 90 sans apporter quoi que ce soit pour les intégrer d'autres que de prendre ces déshabillés Pierre pour habiller Paul. C'est ça qui s'est passé. Et ça a été vraiment dramatique. Là, j'ai vécu des moments absolument dramatiques, tragiques. Tragique avec des juifs russes. Là, ça a été une expérience très très à la fois bouleversante et puis qui m'a coûté très très cher parce que je suis venue en aide à ces gens-là et là, ça, le système me l'a pas pardonné. J'ai devenu la femme à abattre. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que je prenais parti pour des Palestiniens, non pas contre les Israéliens, mais disons en opposition avec des Israéliens, on me laissait dire, disons qu'on me relayait pas. Mais là, j'ai fait parler des Juifs qui étaient victimes du sionisme. Alors là, ça a chauffé dur pour moi.
Et pour comprendre ce virage libéral, il faut s'intéresser à un personnage, Sheldon Adelson, qui est le plus grand.
Faut nous raconter ça. Oui.
Voilà, c'est le principal casinotier du monde. C'est un homme qui possède Las Vegas, qui possède Macao. Et qui est le financier de Benjamin Netanyahou.
Ah oui.
Le paradoxe, c'est que les casinos sont interdits en Israël à cause de la loi juive.
De la loi juive.
Voilà, tout à fait. Et donc, je recommande aux auditeurs de RFM d'aller jeter un œil sur Internet, juste de taper Sheldon Adelson sur Google Images pour voir l'homme qui est derrière Netanyahou. Et on est vraiment dans un personnage, c'est le méchant dans James Bond, Vous avez déjà vu sa tête,
oui, Marion. Oui, je vois tout à fait le gros affreux, adipeux, odieux, abominable.
La bête immonde.
Marion, je vois qu'en 98, vous auriez obtenu le prix Palestine Mahmoud
Amcharé. Oui, j'ai été honorée d'un prix. Alors, je voudrais dire un mot sur ce prix qui m'honore tout à fait. Non, vraiment, j'ai été très très touchée. J'ai été la seule récipiendaire d'un prix littéraire de cette année-là dont personne n'a parlé. C'est-à-dire que la période des prix littéraires, tout le monde se précipite pour interviewer ceux qui les ont reçus, sauf moi. Parce que moi, il a été décidé un jour, alors je sais pas qui, c'est on, hein. On a décidé un jour que je passerai jamais, jamais, jamais la barre des médias, ça va, on s'en passe aujourd'hui. Mais cet interdit sur ma tête a tellement bien fonctionné que le jour où j'ai reçu un prix, eh bien, même l'AFP n'en a pas parlé. C'est extraordinaire, alors qu'il y avait des journalistes de l'AFP qui étaient présents à la remise du prix, il y a eu une dépêche qui a été écrite et elle n'a pas été publiée. Donc j'ai reçu le prix Mahmoud Amchari pour un livre dont je suis assez fière, qui s'appelle Mansour Kardosh, un juste à Nazareth. Mmh. Mansour Kardosh, c'est un monsieur qui est mort à présent en 98 et qui est, on peut dire, l'emblème de la tragédie palestinienne de l'intérieur. C'est-à-dire, ces Palestiniens nés en Palestine sous le mandat britannique, qui ont vu leur pays petit à petit dévoré de l'intérieur par des vagues d'immigration de gens qui prenaient toute la place. En 48, on lui a fermé sa petite entreprise, on l'a assigné à résidence, il est un des tout premiers résistants palestiniens, et il est resté en Israël. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec une carte d'identité israélienne, sur laquelle, dans la case nationalité, il est marqué arabe. Voilà, parce qu'en Israël, nationalité, on est arabe ou juif, ou russe éventuellement. Donc c'est pas une religion, c'est une nationalité. Et lui, ce Palestinien, né en Palestine, s'est retrouvé un jour israélien. Et l'histoire de Mansour Kardosh, c'est vraiment l'histoire du drame de ces Palestiniens israéliens, dont personne ne parle, que j'ai découvert et qui m'ont ouvert les yeux sur la réalité d'Israël. Aussi longtemps que je croyais qu'il y avait les Juifs d'un côté et les Palestiniens de l'autre, je me disais qu'on pouvait tracer une ligne au milieu en disant on va se la partager. Mais à l'intérieur même d'Israël, il y a 1 million d'Arabes qui sont Israéliens qui ne seront jamais Juifs. Et ça, c'est la réalité que j'ai découverte. Donc j'ai reçu le prix Palestine pour cet ouvrage, Mansour Kardosh, et ce cher Mansour, qui était vraiment un vieux monsieur que j'aimais beaucoup, 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 est mort en apprenant que le livre qui portait son nom venait de recevoir le prix Palestine, et sur son lit de mort, il m'a envoyé un merci. Voilà.
Alors, suite à cette aventure en Israël, vous entreprenez des études d'histoire, c'est ça?
C'est-à-dire, oui, c'est plus compliqué que ça. Moi, je travaillais, je voulais absolument être journaliste, je voulais absolument écrire. J'ai été en butte à tous les... Alors vraiment, le barrage absolument intégral. Je travaillais à l'AFP comme secrétaire, j'avais suivi les cours de journalisme, je pouvais parfaitement, je veux dire, j'avais parfaitement le niveau. Il y a eu un barrage, c'était non, elle ne passera pas journaliste. Donc j'ai écrit les livres parce qu'on ne voulait pas publier mes articles. Les livres, on les a publiés, la presse n'a refusé de s'en faire écho. Un jour, j'ai dit, qu'est-ce que je veux dans la vie, vraiment? Je veux deux choses. Je veux deux choses. La première, c'est écrire. Je peux écrire. Et je veux vivre à la campagne. J'ai pris mes petites affaires. Je suis retournée sur la terre de mes aïeux. J'ai trouvé la maison de mes rêves. Je me suis installée. J'ai même trouvé l'amour, le bonheur, tout ce qu'il fallait. Et j'ai dit, maintenant, je vais écrire, 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 écrire. Je continuais d'écrire. Mes bouquins, trouver publication et jamais relais dans la presse. Un jour, j'ai dit, allez. Je raccroche les gants côté israélien, j'ai fait mon devoir, j'ai fait ma part, je veux réaliser mon rêve de... C'est pas un rêve, c'est je veux faire de l'histoire. J'ai toujours lu de l'histoire. J'ai dit, puisque je peux pas faire du journalisme présent, je ferai du journalisme passé. Voilà. Et l'histoire, c'est du journalisme, c'est de l'enquête journalistique. Sauf que c'est pas pour un journal, c'est pour un livre en général, et que c'est pas sur l'actualité, c'est sur le passé. Mais c'est exactement la logique. Être historien ou être journaliste d'investigation, c'est exactement le même état d'esprit, c'est la même mentalité. C'est pas tout à fait le même niveau d'étude, parce que en histoire, il faut déjà avoir lu tout ce qui a été écrit sur le sujet qu'on aborde, enfin tout ce qui a écrit, le maximum de ce qui a été écrit sur le sujet qu'on aborde, alors que le journalisme, non. Le journalisme, il suffit d'être véritablement dans le sujet pour pouvoir faire un bon journaliste. Mais l'état d'esprit est le même, c'est-à-dire qu'un article d'un journaliste qui ne cite pas ses sources, c'est pas un article de journaliste, c'est pas du journalisme, c'est tout ce qu'on veut sauf du journalisme. En histoire, c'est pareil. Vous avancez un truc, source, c'est pas sourcé, c'est pas de l'histoire. Et moi, j'ai eu quelques soucis avec Wikipédia, parce qu'il y avait un petit crétin caché derrière son écran là, qui refusait de dire que j'étais historienne, parce que je n'étais pas reconnue par mes pairs. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas stipendiée par le système. Eh ben, je suis désolée, mais on est historien quand on fait de l'histoire, et les critères pour faire de l'histoire, c'est de aller à la source, citer ses sources, les croiser, etc. Enfin, j'ai appris à l'université, j'ai repris mes études pendant que j'étais dans ma maison là-haut, hein, je faisais mes, sur ma colline, là, j'ai fait mes études par correspondance, j'ai lu des centaines et des centaines et des centaines de bouquins. J'allais à Paris une fois par semaine à la fac et je suis devenue vraiment historienne et c'est là que voilà, c'est là qu'on a été amené à se croiser.
Alors précisons à nos auditeurs que vous êtes spécialiste du 18e siècle.
Oui, tout à fait.
Pourquoi avoir choisi cette période?
Parce que mon intuition m'a fait découvrir un jour que la raison pour laquelle euh, un, un sombre inconnu du nom de François Damiens avait attaqué le roi Louis XVI, c'était pas seulement parce que les jésuites, les jansénistes, les querelles, etc., mais c'était parce que le roi avait la réputation de coucher avec des petites filles. Et je me dis, un gars qui va affronter une mort abominable, dont il est sûr qu'il n'échappera pas, hein, il était sûr de son coup, ça peut être une histoire d'un gars indigné par les mœurs du roi. Alors, je ne dis pas en disant ça que le roi effectivement couchait avec des petites filles, parce que ça demande vérification, mais ce que je suis sûr, c'est qu'il en avait la réputation. Et ça justifiait effectivement l'hypothèse de l'attentat. Donc, sachant que le roi avait été attaqué, j'ai voulu, par intuition, vérifier si ça pouvait être pour des affaires de mœurs. Et j'ai commencé à fouiller toute seule, dans mon coin, en lisant des bouquins, en montant à Paris, en allant à la grande bibliothèque. Mais j'avais le bac, hein, je n'avais aucune... Je connaissais pas les techniques de l'histoire, je connaissais le principe. Mais j'ai commencé à découvrir une piste, j'ai dit non, il me semble que c'est ça. J'en ai parlé à une amie historienne qui m'a dit « Reprends tes études, Marion, tu tiens un filon là. Tu tiens un filon, mais si tu reprends pas tes études, si tu te diplômes pas, on te volera ton travail dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, on dira, vous n'avez rien à dire. » Donc j'ai repris mes études. J'ai commencé, alors pour pouvoir comprendre pourquoi Damien avait attaqué le roi, ben, j'ai appris tout ce qui se passait à cette époque-là, et puis avant, et puis après. Et puis après, c'est un fil que je tire depuis 15 ans. Je n'arrête pas, je fais plusieurs heures de recherche par jour. Je n'arrête pas, depuis 2001, ça fait 14 ans maintenant, depuis 2001, je n'arrête pas de faire de l'histoire, chaque jour que Dieu fait. Alors, je m'arrête de temps en temps le dimanche, quand même. Mais, et encore, je suis pas sûr.
Alors, en 2010, vous publiez le livre « Mourir à l'ombre des Lumières ».
Ah, c'est mon travail sur
l'énigme Damien,
Damien,
c'est ouais, ça ouais. Tiré de vos études, en fait.
En fait, c'est ça. C'est-à-dire que non, j'ai d'abord publié La Marche Rouge. Mmh. C'est-à-dire qu'en voulant savoir pourquoi Damien avait attaqué le roi, j'ai fait le lien avec des émeutes de parents en 1750 qui s'étaient révoltés parce qu'on disait qu'on enlevait les enfants. Alors, il y a des gens qui disaient, les gens croyaient qu'on enlevait des enfants. Il y en a qui disent, oui, on les enlevait. Et j'ai commencé à enquêter là-dessus pour voir si la fille de Damien, puisque j'ai appris que Damien avait une fille, aurait été enlevée à ce moment-là. Bingo, oui, effectivement, pendant qu'on enlevait les enfants.
Juste une précision pour les auditeurs, on est sous Louis XV.
Oh, sous Louis XV, voilà, c'est
voilà,
ça.
Voilà, à ce moment-là.
Voilà, voilà.
Et donc c'est Louis XV, il y a énormément de fantasmes, de rumeurs autour de son règne, justement, de ce que vous avez dit.
Alors justement, oui, alors bon, il y a des choses qui sont vraies, c'est que concernant les mœurs de Louis XV, il avait une maîtresse qui était en fait l'agent de la secte capitaliste qui monte. Elle était là pour faire basculer la royauté dans le libéralisme, hein. C'est elle qui lui a présenté l'encyclopédie, enfin ça, les encyclopédistes et toute cette clique qui rêvait de détruire la France royale et catholique pour en faire ce que c'est devenu, hein. Bon. Et cette marquise de Pompadour, ayant été infectée parce que le roi a continué de coucher ailleurs, a eu l'interdiction par son médecin de continuer d'œuvrer par là où elle était rentrée. Hein, bon. Donc, comme elle ne voulait pas que... Elle tenait la place, hein, elle était la maîtresse du roi au sens premier du terme. Elle le dominait, hein, d'un certain point de vue. C'est pas elle qui faisait toute la politique, mais elle avait véritablement une influence dramatique sur le roi. Et elle a commencé à fournir là où elle pouvait plus officier. Et comme elle voulait pas que des femmes d'influence lui prennent la place, parce que c'était bien le risque, hein, dès que la place est libre, tout le monde se précipite, elle a fait entrer des adolescentes et, paraît-il, même des petites filles. Et ça, les gens le savaient. Hein.
Et c'est une influence à peu près inverse que celle qu'a pu avoir maintenant sur Louis XIV.
Exactement. Exactement. Maintenant, je me demande si on n'a pas exagéré l'influence de Madame de Maintenon sur Louis XIV, parce que j'ai ouï dire que Madame de Maintenon... Enfin, on a fait à croire que Madame de Maintenon avait été responsable des dragonnades et de la tyrannie contre les protestants. Je crois que c'est un bon réflexe bien misogyne qui n'est pas forcément fondé. Mais c'est vrai que Madame de Maintenon, quand elle est rentrée dans la couche royale, et puis pas que dans la couche, hein, puisqu'il l'a épousée, hein, dès qu'il s'est retrouvé veuf, il l'a épousée, elle a eu effectivement une influence elle l'a tiré vers la religion, vers le sérieux, vers la fin des grandes galipettes, quoi. Parce que c'était, je veux dire, Louis XIV était un amoureux fou, quoi. C'était vraiment un homme à femme. Et puis là, il s'est calmé. Mais il a vraiment aimé Françoise de Maintenon. Je veux dire, elle a été sa femme pendant des années, des années.
Et pour revenir à Louis XV et l'influence de la marquise de Pompadour, à la fin de règne, il est dans un climat tellement délétère qu'il est enterré, je crois, de nuit.
De nuit, pour pas que les gens crient. Mais alors, il n'était pas envisageable qu'on crache sur le convoi, quoi. Il y avait certainement plusieurs raisons. Je pense que les mœurs du roi ont profondément choqué la population, parce que les gens ont bien vu qu'on enlevait des enfants. Alors moi, j'ai cru bêtement, quand j'ai repris mes études, qu'on enlevait les enfants pour les donner au roi. Tout faux. Oublié. C'était autre chose, mais la piste était bonne, puisqu'elle m'a permis de comprendre ce qui se passait. Mais de toute façon, il est avéré qu'on lui amenait des gamines. Il avait une femme qui était absolument magnifique. Enfin, je veux dire, la reine était une personne de grande, grande valeur, de grande, grande qualité. Le roi était dominé par ses sens. Et je crois qu'il est vrai qu'il couchait avec des petites filles. Mais il les chassait pas. Hein. On lui remplissait la couche. Quand il allait se coucher, il y avait du monde dedans, quoi.
On a dit qu'il se baignait dans du sang d'enfant. Ça allait très loin.
N'importe quoi. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux.
Mais c'était des rumeurs. C'était des rumeurs. Climat très.
Mais de toute façon.
Entretenu aussi.
Oui. Alors, on entretient. C'est-à-dire que on raconte qu'un prince fait enlever des enfants pour les saigner aux quatre membres et prendre des bains. Qui c'est qui va croire ça? Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Non, là, il y a une réalité. C'est-à-dire qu'on enlève vraiment des enfants. Ce qu'on en fait, on ne vous le dira pas. Et on fait circuler des fausses rumeurs pour discréditer ceux qui disent on enlève des enfants. Ça marche encore comme ça. Oh, regardez la rumeur affreuse. Et on se met à étudier la rumeur au lieu d'étudier la raison de la rumeur, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment. Donc, l'affaire des enlèvements d'enfants, ça a été quand même une grosse, grosse affaire dans le mi-temps du siècle, puisque c'est 1750. Et la confiance que la population avait dans le roi a pris un coup absolument terrible. Terrible. Les gens ne voulaient pas comprendre que le roi se permette d'enlever des enfants. Alors, effectivement, des enfants étaient enlevés, les parents les ont fait libérer. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup à voir avec l'envoi dans les colonies, parce qu'il fallait développer. C'est la période où l'esclavage des nègres est de moins en moins rentable. C'est-à-dire, aller chercher des nègres en Afrique et puis les exporter et puis les échanger, etc., etc., le coût de revient est de plus en plus fort. Et il y a des gens qui ont dit, pourquoi aller chercher des nègres alors qu'on a des enfants ici qui traînent dans les rues? Ben, y a qu'à les ramasser. Ben tiens, les enfants qui traînent dans les rues, ils ont un papa, une maman déjà à l'époque. Et les papas et les mamans ont pris les armes, non. Mais les armes, c'était quoi? C'était des pierres, des cailloux, et ça a été très très violent. Ça a été très très violent. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé la marche rouge, ce soulèvement de parents. A été d'une part. Alors, Louis XV n'a rien compris. Il faut dire que pour qu'il comprenne, il aurait fallu qu'on lui explique ce qui se passait. Hein. Il y avait quand même beaucoup de filtres avant d'atteindre l'oreille du roi. Il a refusé de se montrer à Paris. Il a dit ce vilain peuple qui me fait passer pour un Hérode, à partir de maintenant, j'irai plus à Paris. Bon, ben, un roi, faut que ça vienne à Paris. Un roi, faut que ça voie le peuple. Faut que le peuple le voie. Il y a eu un divorce qui s'est opéré à ce moment-là et qui explique certainement en partie la désaffection. Enfin, Louis XV est passé du bien-aimé au mal-aimé, mais il y a eu aussi les expériences libérales qu'il a faites, et ça a été absolument dramatique. Les premières expériences gravissimes de libéralisation de l'économie, c'est lui qui les a faites, et puis c'est le malheureux Louis XVI qui les a achevées, et puis ça a déclenché la révolution. C'est clair. Donc, les raisons qu'avait le peuple de ne plus aimer Louis XV, à mon avis, c'est autant le pain que les enfants. D'ailleurs, il y a deux choses auxquelles il ne faut pas toucher en France. Le pain et les enfants. On est dedans, là.
Est-ce que vous diriez que vous feriez une comparaison entre François Hollande et Louis XVI? C'est-à-dire que c'est pas le plus méchant, c'est pas le plus mauvais, mais c'est peut-être lui qui va payer.
Je trouve que c'est indigne de dire ça. Louis XVI est un grand monsieur.
Voilà.
C'est indigne. Je ne laisserai pas dire. Je ne laisserai pas faire une comparaison pareille.
C'est ce que je voulais vous entendre
non,
dire.
Non, alors, osez dire que... Ah non, alors, voilà. Hollande, royal, de quoi? Qu'est-ce qu'il a? Non. Non, vraiment, vraiment. J'ai beaucoup.
Mais justement,
beaucoup...
exprimez-vous sur Louis XVI. C'était à ça que je voulais vous amener.
Je pense que Louis XVI s'est fait avoir. Louis XVI a cru bon. Il a cru que ce qu'on lui présentait comme le vœu des Français était le vœu des Français. C'était pas le vœu des Français, c'était le vœu de la bourgeoisie. Et il a cru vraiment que le peuple français voulait une certaine forme de libéralisation. Et la constitution qu'on lui a fait accepter était une constitution libérale, qui libéralisait, qui supprimait la police du grain, qui libéralisait la circulation des subsistances. Et ça, c'est la fin de la royauté. Et il ne l'a pas vu. Cela dit, Louis XVI était un homme très intelligent. C'était un homme extrêmement généreux. Ça a été un grand roi. Ça a été un grand roi qui a été pris dans une spirale monstrueuse qu'il n'a pas vu venir. Et je ne vois pas comment il aurait pu l'avoir venir. Vraiment. Je ne vois pas comment il aurait pu l'avoir venir.
Doublé d'un ingénieur avec des chefs-d'œuvre de serrurerie.
Mais c'était un type extraordinaire. C'était un type extraordinaire. En plus, il a été bon époux et bon père. Il était très, très amoureux de sa femme. Il était doux avec ses enfants. Non. Je vois, vraiment.
Imprégné, malgré tout, Marion, de l'esprit des Lumières.
Ben, c'est-à-dire que lui n'en voulait pas et il s'est laissé convaincre, effectivement. Il s'est laissé convaincre. Au début, on lui a dit... D'abord, il a été très mal préparé. C'est son père qui devait régner. Après, c'est son frère qui devait régner. Il est arrivé, quand Louis XV est mort, il avait 20 ans, il a été affolé. Il a été affolé de se retrouver à 20 ans avec sa jeune femme de 20 ans aussi. Il s'est retrouvé brusquement roi. Il a eu un moment de vertige. Comment vais-je m'en sortir? Il n'avait pas eu de père. Il était perdu. Et les gens qui se sont présentés à lui en lui disant, je pense notamment à Turgot, mais il y a eu beaucoup de gens qui l'ont approché et qui ont essayé de l'influencer dans ce sens, des gens sont venus le flatter dans le sens de « vous allez être un très très grand roi majesté, mais regardez les problèmes qui se posent, voilà les solutions que nous vous proposons ». Problèmes qui se posaient, bon, il y avait la dette, il y avait énormément de choses, et surtout, on lui a fait croire que le vœu du peuple était qu'il remette en question le mode de la circulation des subsistances. Il y avait deux choses qui couraient à l'époque, que l'encyclopédie a été le moteur. C'était, il faut laisser passer les marchandises. Et il y avait une deuxième chose, il faut les laisser faire, laisser passer, c'est-à-dire le capitalisme. Et on s'était présenté de telle manière que on expliquait au roi, et c'est à ce à quoi avait servi l'encyclopédie, et c'était ça le mouvement des Lumières, on expliquait au roi que ce qui faisait que le prix du pain était trop cher, c'était toutes les barrières qu'on mettait à la libre circulation des grains. C'est-à-dire, on disait, voilà, les gens arrivent au marché, ils ne peuvent acheter leurs grains que au marché, donc le paysan apporte son grain au marché, alors que si le marchand passe chez le paysan, ça va coûter moins cher, il y a une distance de moins, le marchand, lui, il va aller là où il y aura... Il va aller spontanément là où le grain manque parce qu'il va vouloir en vendre beaucoup. Donc, le marché va se réguler lui-même. Or, la façon royale de gérer les subsistances, c'est on ne laisse pas faire les marchands. Les marchands sont utiles, mais ils sont sous surveillance. Ils sont non pas aux ordres, mais sous surveillance très très étroite. Les gens se méfient des marchands. Le dieu des marchands, c'est également le dieu des voleurs. Hein. C'est pas pour rien. Je crois qu'il paraît que c'est également le dieu des journalistes. Menteurs, les marchands.
Pas le nôtre. Ouais.
Je dis peut-être une bêtise. Donc, la façon royale de gérer les subsistances, c'est la surveillance. La surveillance est la dramatique, une surveillance drastique, drastique. Donc, le grain arrive d'abord au marché, il est vendu à certaines heures, ça n'est que le surplus qui peut être acheté par les marchands et mené d'un marché à un autre, alors que les libéraux disent... Laissez faire les marchands, laissez-les acheter le grain où ils veulent, laissez le grain circuler, laissez passer. Le prix du grain, à ce moment-là, atteindra le bon prix qui est celui auquel tout le monde pourra se nourrir. C'était évidemment une vue de l'esprit. Dès que le libéralisme a été instauré, ça a été en 1763, la première expérience, le prix du grain a immédiatement augmenté. Les gens se sont mis à ne plus pouvoir acheter leur nourriture avec leur salaire, et ça a été le début du commencement de la fin. Louis XV a fait l'expérience de 1763 à 1770. Ça a été des émeutes dans tout le pays. Ensuite, à la mort de Louis, il a arrêté. À la mort de Louis XV, Louis XVI, on est venu lui raconter que c'était ça qu'il fallait faire. Il a pris Turgot. Deux ans après, il a de nouveau arrêté parce que le pays était en voie de bouleversement total. Et pour une raison que je n'ai pas encore réussi à trouver, mais que je cherche, En 1787 ou 8, de nouveau, la libre circulation des subsistances a été instaurée. C'est-à-dire que le roi... Alors là, je ne peux pas en dire plus parce que je ne sais pas exactement dans quelles circonstances. Dans quelles conditions exactes. Les circonstances, je les connais. Là, le roi n'avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent. La dette était abyssale. Donc, voilà. Le libéralisme comme façon de... On a présenté au roi le libéralisme comme façon de résoudre le problème de la royauté. Mais le roi, Louis XVI, a voulu faire ça pour le bien de ses peuples, comme on dit. Il n'a jamais essayé, lui, de s'enrichir. Donc il croyait que c'était ça que voulaient les Français.
Alors, vous parlez de cette expérience libérale de Turgot dans votre livre de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise. Tout ça sous l'œil bienveillant de Voltaire.
Voltaire, quand Turgot est arrivé au pouvoir, il a pleuré de bonheur. Et quand Turgot a quitté le pouvoir, il a pleuré de malheur. Turgot, c'était pour Voltaire, c'était ça y était. On avait sauvé l'humanité, quoi. Faire venir les libéraux au pouvoir pour Voltaire, c'était on avait gagné. Alors il y avait gagné une première manche par l'interdiction des jésuites. En 1763, les jésuites ont perdu la bataille. Les jansénistes ont réussi à les faire interdire du royaume, interdire de donner l'école gratuite aux gens méritants, à créer une élite. Alors c'était pas l'élite républicaine, hein, c'était l'élite du royaume, des gens qu'on prenait aussi bien dans le ruisseau et dont on allait faire des gens extrêmement cultivés, compétents, dévoués, moralement irréprochables et tout. Et on a supprimé ces écoles jésuites. Et à propos du libéralisme économique, quand les jésuites ont été supprimés, Voltaire a ricané, ha ha ha, maintenant la voie est libre. Eh bien, c'est la même année, la première expérience libérale de 1763 se situe dans la foulée de l'interdiction des jésuites. C'est-à-dire, on se débarrasse de la partie la plus influente et la plus brillante de l'Église catholique pour faire entrer les libéraux et les capitalistes. Voilà.
Et là, on en arrive à la Révolution.
Alors, non, j'ai oublié un truc, j'ai dit laisser passer, il y avait également laisser faire. Hein. Donc la deuxième chose, le deuxième dada des libéraux, c'était interdire les corporations, c'est-à-dire faire en sorte que le travail ne soit pas fait par un travailleur protégé par une corporation, et le consommateur était également protégé par la corporation, puisque la corporation édictait des règles de qualité, de normes et tout, et la grande idée des libéraux, des encyclopédistes, des gens des Lumières, c'était de supprimer les corporations, c'est-à-dire de laisser faire, laisser passer. On supprime les corporations, on supprime les barrières, et on... C'est le monde dans lequel nous vivons. Hein.
Et donc, par
exemple, l'horreur présente.
Vous effleurez le sujet de la Révolution dans votre œuvre, uniquement dans un seul livre. Ouais. C'est La mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau, où vous décrivez l'assassinat d'un député montagnard à la Convention nationale, qui était en fait, selon vous, un député royaliste infiltré parmi les montagnards.
Alors, c'était pas vraiment royaliste, c'est-à-dire que des gens voulaient sauver le roi, mais pas pour le laisser au pouvoir. C'est-à-dire que le roi Louis XVI, en restant en vie, avait une fonction, enfin, on prévoyait sur lui une fonction de il aurait été sous tutelle. Tout le monde ne voulait pas la mort du roi. Les gens qui voulaient renverser la royauté pouvaient vouloir renverser la royauté en conservant le roi en vie. Voilà. Et je pense que Michel de Pelletier de Saint-Fargeau faisait partie de ces gens sur qui on comptait pour essayer de sauver la vie du roi, parce que au moment de la proclamation de la République, eh bien, vous aviez, c'est là que l'explosion s'est faite entre les gens qui ont voulu la surenchère révolutionnaire et puis les gens qui l'ont faite. À un moment donné, le golem qu'ils avaient créé leur a échappé. Et je pense effectivement que Michel de Pelletier de Saint-Fargeau avait été pressenti pour essayer de sauver la mort du roi, et puis la pression a été trop forte et on lui a fait payer. Hein. Mais les royalistes, c'était pas ça. Hein. Royalistes, c'était pas ça. Les royalistes, les anti-révolutionnaires, les contre-révolutionnaires étaient des gens qui voulaient conserver le monarque dans ses prérogatives habituelles. Les Anglais, par exemple, ne voulaient pas la mort du roi.
Mais cela dit, à l'époque, le peuple est royaliste, tout le monde est royaliste, la question ne se pose même pas.
Mais alors, toute la question est de savoir qui est le peuple et à quel titre on lui impose une république qu'il n'a pas demandée. Mais ça, c'est le sujet de ma conférence de cet après-midi, hein, puisque je vais à la main d'or vous parler de la naissance de la République. Il est évident que le peuple français n'a jamais été républicain, en tout cas pas à l'époque. Jamais. Jamais. Alors, ceux qui sont républicains, ce sont ceux qui prennent le pouvoir à ce moment-là et qui imposent la République au peuple français.
D'accord, alors pourtant, Marion, la République, parlons-en un peu.
Oui.
Donc pour vous, la République n'est pas la démocratie.
Mais la République, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État imposé au peuple français par la violence. Mais une violence inouïe, une violence inouïe. Les quelques émeutes qui ont renversé la royauté et qui ont instauré la République sont des modèles d'abomination, d'abomination. Il y a eu la première... Bon, toutes les violences de la Révolution sont absolument atroces. Enfin bon. Mais là, il y a un effet de masse qui commence. Il y a la prise des Tuileries le 10 août. C'est d'une sauvagerie. C'est d'une sauvagerie. Et tout ce que j'ai lu, moi, des mémorialistes de l'époque disent, mais le peuple parisien, le peuple français est un peuple doux. Comment les gens peuvent-ils subir des assauts de violence et de sauvagerie comme ça? Les gens ont laissé la République s'instaurer sous l'effet d'une sidération. La sidération devant un tel déchaînement de violence. Et moi, je crois avoir compris pourquoi il y avait 20 millions de Français, c'est pas 20 millions de Français qui ont pris les Tuileries, c'est quelques milliers, pas plus. Mais je crois avoir compris, il me semble, commencer à comprendre comment ces foules ont pu être mises en branle pour commettre ces violences. C'est que, dès le début de la Révolution, je pense que ça avait commencé avant, mais c'est gravé dans le marbre à partir de la Révolution, les gens n'ont plus les moyens de s'acheter à manger, les gens ont faim. Les gens ont faim. La Révolution est une... Souvenez-vous l'image des foules, des femmes qui vont à Versailles chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Ils vont chercher un roi nourricier. Le roi ne veut plus être nourricier et on vient le chercher pour le rappeler à l'ordre. Bon, il avait déjà plus les moyens, c'était déjà terminé. Il était sous tutelle. Mais les foules se mettent en branle parce que des agitateurs leur font croire que la source de leur malaise, de leur mal-être et de leur fringale quotidienne, c'est celui-ci ou celui-là, mais la fringale, elle est existante. Les gens ont faim. Les subsistances sont de plus en plus chères.
Alors Marion, Maurice Talmer, auteur édité chez Contre-Culture, La franc-maçonnerie et la Révolution française, lui, il explique la Révolution française par les réseaux maçonniques.
Alors je crois que c'est vrai. Alors j'ai mis longtemps à comprendre ça parce que quand j'ai voulu, moi j'aime bien faire de l'histoire à partir de travaux, soit de sources premières, soit de travaux sourcés. Et je trouvais pas sur la franc-maçonnerie, je cherchais pas beaucoup, mais j'ai voulu un jour aller chercher dans les archives de la franc-maçonnerie à la Bibliothèque nationale. Bon, j'ai compris que c'était inutile. Bon, mais alors il y a des gens qui se sont vraiment vraiment penchés sur le sujet. Maurice Talmer, je l'ai lu, mais il y a beaucoup beaucoup plus parlant que ça pour comprendre l'influence de la franc-maçonnerie. Alors, j'ai pas voulu voir, mais maintenant, ça y est, c'est aveuglant. Vous avez Augustin Cochin, qui a fait vraiment un ouvrage de référence. Il faut lire ça. Il faut voir comment les loges franc-maçonnes ont organisé l'écriture des cahiers de doléances, quoi. Je veux dire, les cahiers de doléances, c'est la population qui va voir son curé en disant, nous, on veut ça, et comment c'est transformé en ce qui est arrivé à Versailles. C'est-à-dire, vraiment, pas grand-chose à voir. Toutes ces manipulations d'assemblées, les manipulations de réunions, la présence de la franc-maçonnerie dans les avant la Révolution, au niveau de la préparation des États généraux, il faut lire Augustin Cochin. J'ai lu un autre livre que je suis en train de lire, qui est absolument c'est un pavé. Je suis obligée de l'entrecouper d'autres livres en même temps parce que c'est quasiment indigeste, mais c'est exhaustif. C'est Hubert de Lamarle sur Philippe Égalité. Philippe Égalité, le cousin du roi, a été le premier grand maître du Grand Orient de France et c'est lui qui déclenche tout ça. À chaque fois qu'il y a une émeute, il y a des agents à lui qui distribuent de l'argent. C'est vraiment la franc-maçonnerie. Les Jacobins, ce sont des francs-maçons. Les amis de la Constitution, ce sont des francs-maçons. La Révolution, elle est maçonnique. C'est clair. La Révolution est maçonnique. Mais dès 89, c'est avant la République.
Y compris énormément de nobles, principalement des nobles.
Bien sûr.
C'est la noblesse qui se saborde elle-même quelque part.
Oui. Bah, la noblesse. La franc-maçonnerie, je crois, était le lieu où bourgeoisie et noblesse coudoyaient. Alors, ça valorisait les uns et les autres, les nobles parce qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils en trouvaient chez les bourgeois, et les bourgeois parce qu'ils voulaient de la particule. C'est comme voilà. ça qu'on est un. Pendant le 18e, les nobles courent après les bourgeois pour avoir les sous, et dans le 19e, les bourgeois courent après les nobles pour avoir les particules. Hein. Mais c'est vrai que c'est cette rencontre au sommet. Pas tous les nobles, hein, bien sûr. Il reste des nobles qui avaient la véritable noblesse, qui était pour eux celle des armes. Ils ont malheureusement émigré. Hein. Ils n'arrivaient plus à rien faire. Enfin bon, c'est un autre sujet. La franc-maçonnerie dans la Révolution, ben la Révolution est maçonnique. La Révolution est maçonnique. D'accord. Voilà, on peut pas. Le bouquin de Hubert de Lamarle sur Philippe Égalité et Augustin Cochin, lisez déjà ça, vous allez voir, ça c'est édifiant.
D'accord, et donc si on suit cette idée de Révolution maçonnique, quel était le projet, puisque donc il y avait un projet?
Ben, je crois qu'il y en a eu plusieurs, puisqu'ils ont fini tous par s'entretuer les uns les autres. Hein. Il y a eu le projet, c'était le libéralisme économique, mmh. et puis c'était d'avoir un roi sous tutelle. Le principe de la royauté absolue à la française, c'est-à-dire c'est le roi, au-dessus du roi, c'est le bon Dieu, hein, et le bien et le mal sont dits par l'Église catholique, c'est-à-dire ce qui a fait la beauté et la grandeur de la royauté française, il faut mettre ça sous tutelle. Il faut mettre ça sous tutelle. Il faut que l'Église rentre à la niche, il faut que les évêques soient élus par la population, les élections populaires, on va voir ce que c'est pendant la Révolution, tout ça c'est manipulé, hein. Il n'y a pas d'élection libre, ça c'est de la rigolade. Tout le système qui passe des... Alors ça, moi j'ai fini par comprendre. Mmh. Moi j'ai cru que les élections c'était la démocratie, pas du tout. Les élections c'est la manipulation. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, la constitution civile du clergé, ça a consisté à dire maintenant, l'Église va être soumise à l'État et le roi va être soumis à l'Assemblée. Mais l'Assemblée, c'est encore des gens qui manipulent. L'Assemblée prétend qu'elle est le peuple. L'Assemblée n'a jamais été le peuple. Et l'Assemblée veut mettre le roi sous tutelle. Le but de la Révolution, c'est pas à l'origine de renverser la royauté, mais de la faire marcher droit. Marcher droit dans le sens de quoi ? On remplace Dieu par le profit. C'est le capitalisme, c'est la sauvagerie économique. C'est ça qui a été le but de la Révolution. Je pense qu'on y est arrivé avec plusieurs soubresauts, mais au prix de massacres insensés, parce que le peuple français ne voulait pas de ça. Le peuple français voulait son roi, le peuple français voulait ses prêtres, le peuple français voulait sa religion, et on lui a... ça a été un viol.
Alors Marion, il y a une figure quand même dans la Révolution. Vous savez qu'on découpe la Révolution en deux parties. À partir du 10 août 1792, on explique que donc les années terribles, la terreur. Mmh. Et là, il y a une figure qui s'élève, celle de Robespierre. Mmh. Moi, je voulais avoir votre avis sur ce personnage.
J'ai été comme beaucoup de gens, très très partagé sur Robespierre pour une raison très simple, c'est que je viens d'un milieu de gauche. Bon, c'est pas d'une famille de gauche, mais disons d'un milieu de gauche. Moi, j'ai choisi mon milieu à un moment donné, je suis allé à gauche, c'est même à l'extrême gauche. Donc, Robespierre, c'est celui qui parle sans arrêt au nom du peuple, qui défend le peuple. Donc, défendre Robespierre, c'est défendre le peuple, c'est défendre Robespierre. Bon. Donc, moi, j'avais pas d'avis particulier sur la question, mais je prenais ça comme un acquis. Bon, et que Robespierre c'était la gauche, donc moi j'étais à gauche, donc j'étais pour Robespierre. Quand j'ai commencé à faire des études, je suis tombé dans un milieu extrêmement robespierriste à la fac. Alors déjà, être historien et robespierriste, ça me semble un peu déjà une contradiction, parce qu'un historien il est pour la vérité. Mais si la vérité elle est contre Robespierre, il y a un truc qui va pas là. Déjà ça me choque, mais enfin bon, les gens font ce qu'ils veulent. Et je suis tombé dans un milieu à la fac où on m'a bien expliqué en long, en large et en travers, livre à l'appui, que Robespierre avait été terriblement calomnié. Ça, c'est une réalité aussi.
Mmh. Il y a une légende noire.
Il y a une légende noire sur Robespierre. On lui a fait porter le chapeau sur plein de trucs. Donc, à partir du moment où on ment sur le personnage, dès qu'on enlève les mensonges, il devient quand même beaucoup plus sympathique. Bon. Donc, on a menti sur Robespierre, et puis c'était quoi ? Il y avait les Girondins, et puis il y avait les Montagnards. Il y avait un coup à droite, il y avait un coup à gauche. Donc, si les Girondins étaient des gros vilains, les Montagnards se deviennent des gros gentils. Bon, mais l'histoire, c'est pas ça. Quand j'ai commencé à mettre le nez là-dedans, j'ai dit, Robespierre est un psychopathe, c'est un psychopathe, et que c'est pas sous prétexte... Attends, comment je vais trouver une formule ? C'est pas parce que tu es paranoïaque que personne te suit, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est pas parce que le gars a été calomnié qu'il a pas fait des abominations, peut-être d'autres. Hein. Robespierre est un type qui a passé ses années de vie publique à parler au nom d'un peuple qui lui avait rien demandé.
Qui le soutenait, quand même.
Mais qui soutenait Robespierre ? Où ? Quand, comment, pendant les réunions jacobins ? C'est ça la démocratie ? Il faut voir ce que c'était que la démocratie à l'époque. C'était des assemblées qui se faisaient dans des églises, des assemblées de sections, c'était lui qui gueulait le plus fort, qui avait le dernier mot, où on prenait les décisions importantes entre 3 et 4 heures du matin avec 5 pingouins qui parlaient au nom de la foule. Je vais te raconter un truc, je vais vous raconter quelque chose. Il y a une décision un jour qui est prise. Il y a un type, il arrive en disant « il faut faire ci, il faut faire ça ». Il arrive tout seul dans sa section, ils doivent être 15. Dans les églises, après tout, hein, on pousse les chaises, on s'installe. Personne, c'est pas les curés qui vont venir protester. Et il arrive avec une motion, en disant, voilà, moi j'ai une motion, il faudrait faire ça. Bon, alors les gars, ils votent. Et puis ils envoient un factotum dire la même chose à la section d'à côté. Et puis en quelques heures, ils sont passés de section à section, ils arrivent à la commune de Paris, hein, ils disent, voilà, le peuple de Paris décide que la commune de Paris, elle dit d'accord, elle arrive à l'Assemblée en disant, à partir de maintenant, c'est ça. Ben c'est pas beau, ça. Eh ben, il y a un gars, un jour, qui a décidé qu'il fallait enlever toutes les statues des rois. C'était le 11 août au matin. On va enlever toutes les statues des rois, parce qu'il y a un gars qui a eu l'idée, et on est passé ça de section en section, et on appelle ça le peuple. 40 types qui ont décidé, aux heures où les gens normaux dorment, que c'était le peuple qui s'exprimait. Le peuple de Robespierre, il est dans sa tête. Et le peuple, à l'époque de Robespierre, on l'a vu en Vendée. Notamment, ce sont des gens qui ne voulaient pas qu'on touche à leur mode de vie.
Mais alors Marion, si vous contestez le fait que Robespierre était soutenu par les sections.
Mais les sections n'étaient pas le peuple. Les sections étaient permanentes et elles prenaient les décisions. Mais les sections, c'était la terreur. Les sections, c'était la terreur. Les sections, c'est la politique de l'Assemblée Générale avec le gars qui gueule le plus fort, qui a le dernier mot et qui dit le peuple a parlé. Le peuple de Robespierre est le peuple qu'il a dans sa tête. Robespierre a vécu pendant les années de Révolution entre la rue de Rivoli, enfin, la rue du Faubourg Saint-Honoré, et le manège. Il faisait quoi? 1 kilomètre dans la journée? Et il parlait au nom du peuple. La France est le plus grand pays d'Europe. Il y a 20 millions d'habitants. Et il parle au nom du peuple.
En tout
Qu'est-ce qu'il sait de ce qu'ils veulent le peuple?
En tout cas, il l'a défendu à de nombreuses reprises. Par exemple, quand il s'est opposé à la séparation des citoyens actifs passifs, aux marques d'argent, au suffrage censitaire, à la peine de mort...
peine de mort.
Il est mignon.
Il était mignon, il s'est opposé à la peine de mort.
Bien sûr.
Bah oui. Mais enfin, on n'a jamais tué les gens à une rapidité. Il a accepté, Robespierre a accepté qu'on supprime les droits de la défense. Il a accepté qu'on raccourcisse les procédures. C'est monstrueux. Alors
au comité de salut public, c'était une autre situation.
Non. C'est dès le mois d'août 1792. Les premières... Robespierre a accepté, il n'a pas accepté, il a applaudi qu'on ferme tous les journaux royalistes le 11 août au matin. Le 10 août, on prend d'assaut les Tuileries en commettant des abominations absolument innommables, et on va chercher toutes les presses, les caractères et les papiers des journaux royalistes, et on les vole et on les donne à des bons journalistes, notamment à un certain Jean-Paul Marat, et Robespierre dit bravo, bravo. Mais c'est un fou. C'est un fou. Un coup d'État d'une violence insensée renverse une royauté qui a 15 siècles. Et lui, 12 à l'époque. Et lui, il applaudit. Et il faut dire, mais il parle au nom du peuple. Mais le peuple lui a rien demandé à ce gars-là.
Marion,
le peuple lui a rien demandé.
Entre-temps, la législative a déclaré la guerre à toutes les monarchies coalisées.
Oui, absolument. Là où la législative a déclaré la guerre.
D'accord, donc la situation était quand même différente.
Différente de quoi?
De celle du moment où il a été contre la peine de mort. C'est-à-dire que là, on est dans une situation de guerre civile même.
Non. Le peuple de Paris n'est pas en guerre contre le peuple de Paris. Hein. Quand on décrète qu'on va supprimer les droits de la défense, c'est pour les gens de l'intérieur. C'est pas quand les droits de la défense d'un soldat ennemi. Hein. Là, c'est la France qui gère la France. Donc, dès le 11 août au matin, la dictature s'abat sur Paris et sur la France, et Robespierre applaudit. Robespierre applaudit. Puisqu'il faut sauver la Révolution. Mais qui c'est qui lui a demandé de sauver la Révolution à lui? Qui la veut, la Révolution? Qui a voulu la Révolution? La Révolution a été imposée au peuple français. On a menti de bout en bout au peuple français sur la Révolution, oui.
Est-ce que vous diriez que c'est un idiot utile, Robespierre?
Non. Non. D'abord, il n'était pas idiot. Je sais pas à quoi il a été utile.
Il était utile aux gens qui combattaient, peut-être.
T'es pas sûr. Je pense que la terreur a quand même un peu échappé au... Le plan d'origine, c'est le plan qui a échappé quand la montagne est arrivée à la commune, quoi. Quand la commune de Paris a pris le... Je pense qu'il y a eu un emballement. Mais ce qu'on sait quand même, et là Robespierre n'est pas responsable pour le coup, hein, mais c'est pas la peine de lui mettre sur le dos ce qui est à mettre sur le dos des autres, le chaos... En France, c'était quand même organisé par des gens bien satanistes, bien abominables, qui étaient les franquistes. Hein. Jacob Franck avait fait des émules. Par exemple, la grande bataille de Valmy, il faut savoir que la grande victoire de Valmy, qui a justifié qu'on accélère l'arrivée de la République, si mes informations sont bonnes, elle n'a pas eu lieu. Parce que le duc de Brunswick et le général Dumouriez étaient tous les deux de la secte franquiste des... Comment ils appelaient ça? Les frères de Saint-Jean de je sais pas trop quoi, qui étaient en fait des gens qui prônent le gouvernement par le chaos. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voulu renverser la France et la faire sombrer dans le chaos. Ces gens-là ont réussi. Robespierre, là-dedans, je pense pas qu'il était plus important qu'un autre. Hein. Je dis pas que Robespierre était le dictateur du comité de salut public. Il avait une voix sur 10, mais il l'avait, c'est tout. C'est pas la peine de lui retirer.
Et il avait un ascendant sur ses collègues quand même, du fait qu'il était soutenu justement par les sections.
Je pense qu'il faisait des discours qui faisaient qu'il était applaudi aux Jacobins, mais les Jacobins c'était combien de gens? Combien il y avait de gens qui l'applaudissaient aux Jacobins?
Bah, vous voulez qu'il soit applaudi par qui d'autre que les spectateurs des Jacobins?
Bah, c'est tout, je veux dire, c'est pas le peuple, c'est pas plus le peuple que ça, c'est un club.
Il n'était pas thaumaturge.
Non mais je veux dire, il était populaire auprès de qui? Auprès des gens qui se déplaçaient aux Jacobins pour l'écouter.
Bah, c'est déjà bien.
Bah, c'est parfait, c'était des gens qui étaient là pour ça. Quand il était à l'Assemblée nationale, c'était moins applaudi quand même.
À la Convention?
Ah oui. Ah bah oui. Au bout d'un moment, moi j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait à la Convention. C'était les tribunes hein, qui faisaient la loi à la Convention. Et les tribunes, les mecs, ils étaient armés quand même. Hein. C'était quand même la terreur jusque dans l'Assemblée. Et les derniers moments de l'Assemblée législative, c'est vraiment une terreur terrible. C'est la terreur.
Donc pour vous, le 9 Thermidor, c'est une bonne nouvelle?
Non. Non.
Ah, je comprends pas là.
Bah, c'est une bonne nouvelle pour les Vendéens, parce que le massacre s'arrête, encore que il paraît que ça a même continué. Bah, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est le peuple a perdu de toute façon. De toute façon, le peuple a perdu. Le peuple a perdu dès 89, que la furie robespierriste s'arrête, que la furie de ce type s'arrête, le 9 Thermidor, bon bah tant mieux, ça va, mais la situation s'est pas arrangée pour les Français. Le libéralisme a été gravé dans le marbre, on a eu l'Empire, enfin je vais dire...
Et on n'en est jamais sorti.
Donc c'est une espèce de respiration au moment où Robespierre tombe, mais il a pas laissé la place à mieux que lui. Peut-être moins sanguinaire, sans doute. Peut-être moins, mais le capitalisme a gagné, la bourgeoisie est arrivée au pouvoir, on y est encore.
Je voulais vous poser une dernière question avant de laisser la parole à Vincent. Est-ce que vous êtes royaliste?
Non. Non, parce que je suis pas anti-royaliste, déjà. Mais alors, je suis plus républicain, alors ça, je vous explique. Hein, je crois que vous avez compris.
On a compris.
La République, ça va, c'est la gueuse. La République, c'est même pas une gueuse, je veux dire. Une gueuse, c'est une pauvre fille. Non, non, la République, c'est plus grave que ça. C'est vraiment satanique, c'est une horreur. Mais si on était en 1789, je serais royaliste, mais je ferais partie des gens qui diraient au roi, majesté, faites un peu comme on fait vos aïeux. Vous laissez pas avoir par ces sirènes. Mais pour être royaliste aujourd'hui, il faudrait que je puisse croire que un prétendant pourrait, et pour l'instant je crois pas à ça, ni je ne crois le contraire, je m'en occupe pas. Je ne me revendique pas d'un quelconque prétendant au trône de France. Je serais absolument pas choqué que la France redevienne une royauté. De toute façon, la République, elle est pas morte, mais elle est moribonde, il va falloir trouver autre chose. Et c'est autre chose, je suis ouverte. Mais on ne trouvera autre chose que si on tire les leçons du passé, et on ne peut pas tirer les leçons du passé si on continue à croire les mensonges dont on nous bassine depuis 200 ans sur la République. Faire croire que la Révolution française a été un soulèvement du peuple, c'est une honte. Le peuple a subi la Révolution française et dès qu'il a levé le nez pour dire ce qu'il en pensait, ça a été le massacre. Ça a été le massacre. La Vendée, c'est ce qu'on connaît le mieux, parce que un chercheur comme Reynald Secher a fait le travail au fond, mais À mon avis, il y a des choses comparables absolument partout. Le peuple français était royaliste et catholique. Et on lui a mis une république laïque. Il n'a jamais demandé ça. Le peuple n'a pas demandé la révolution. Alors, toutes les justifications des horreurs, par exemple, les massacres de septembre. Ah bah oui, bah, il fallait, pour sauver la République, bah voilà, bah, la République ne pouvait s'imposer que dans un bain de sang. Abominable, abominable. Il fallait sauver. Je sais plus qui a dit, c'est grâce au massacre de septembre. Oui, ça a été affreux, mais c'est grâce au massacre de septembre qu'on a eu la Convention. Bah voilà, c'est QFD. La Convention, c'est quoi? C'est le résultat d'un massacre. Voilà. Et le peuple là-dedans? Le peuple, il vivait dans la terreur. Et la terreur, elle n'a pas commencé en 93. La terreur, elle a commencé dans tout le courant de 92.
Bien sûr.
Et la terreur, ce sont les Girondins.
Ce sont les Girondins, on est d'accord.
Bien sûr. C'est évident, mais ce sont les Girondins. Mais les Girondins, c'est eux qui ont lancé la machine, puis après ils se sont fait doubler, tout simplement. Moi, je défends pas les Girondins. Ce sont les mêmes, mais les Girondins, ils étaient d'un certain milieu, les autres d'un autre. Au début, ils étaient tous ensemble autour du duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, il recevait chez lui aussi bien Brissot, Roland Marat, Robespierre, Danton, tous, ils étaient tous ensemble. Puis après, il y a eu ceux qui voulaient plus, ceux qui voulaient moins, ceux qui voulaient plus ceci, ceux qui voulaient plus cela. Mais les Girondins sont des crapules. Et je suis pas le genre à dire, ah bah puisque t'es toujours les Girondins, t'es contre. Non, moi c'est tout le monde dans le même sac. Ce sont des gens qui ont voulu changer la France. Et la France leur a rien demandé.
Mais justement, alors là, j'ai une remarque à faire. Vous parlez du peuple vous-même, en disant que le peuple était royaliste et qu'il n'a rien demandé, mais finalement le peuple, quand on l'observe aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas se dire que le peuple ne demande jamais rien finalement? Ce sont toujours des petits groupes qui décident pour lui et qui font l'histoire pour lui.
Oui, mais avant, c'était pas comme ça, justement. Avant la Révolution, c'était pas comme ça. Maintenant, on a l'État qui nous dit quoi faire. Maintenant, on a l'État. Moi, je veux te prêter de l'argent, je suis obligé de passer par l'État, par un notaire. Il y a l'État partout. Tu veux t'acheter une lunette pour tes toilettes, hein, bah, tu vas passer par les normes. On a des normes maintenant. Tu veux acheter un... Non, c'est pas comme ça. L'État est partout. Avant, c'était pas ça. Avant, les gens s'arrangeaient entre eux. Les métiers étaient organisés en corporation et le roi chapeautait le tout. Le roi était l'élément pacificateur des conflits éventuels qui pouvaient exister entre des gens qui, de toute façon, étaient là pour vivre ensemble et bien. Donc, les métiers étaient les métiers, les campagnes vivaient en communauté villageoise, le bien commun était la règle. Depuis la Révolution, le bien commun, c'est tout à fait accessoire, ce qu'il faut, c'est le profit. À l'heure actuelle, si les Français sont tellement perdus, c'est que le lien qui les reliait jadis est de plus en plus ténu et de plus en plus inexistant. Je pense que le souvenir peut jouer encore. Je pense que les Français ont encore le sens de ce que c'est que le bien commun. C'est un peu dans les gènes des Français, ça, l'idée du bien commun. Maintenant, on s'embarrasse même plus de faire croire qu'il faut le bien commun. Avant, on disait le bien commun, c'est le profit. Maintenant, on dit le profit, c'est le profit. Le bien commun, on s'en fout. Mais je pense que les Français ont encore ça dans le sang. Que c'est le bien commun qu'il faut. Moi, j'ai confiance, là. Je suis française, là, mais pas à moitié. Hein.
Marion Cigaud, je rappelle à nos auditeurs que vos manuels d'histoire sont disponibles sur le site contreculture.com pour ceux qui souhaiteraient approfondir tous les sujets que nous avons effleurés ensemble.
Par exemple, Voltaire, c'est juste effleuré.
Ah oui, là.
Il y aurait au moins 10 livres à faire là-dessus.
J'annonce d'ores et déjà l'émission suivante. Nous recevrons la semaine prochaine nos confrères de Méridien Zéro. Nous parlerons de militantisme et de nouveaux moyens de communiquer ensemble. Chers auditeurs, donc Marion, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était même passionnant, je dirais.
Merci.
Nous avons un léger désaccord sur Robespierre.
Hein, on va approfondir.
On va continuer à en discuter au fil de la journée. Chers auditeurs, Xavier, merci.
Merci Vincent.
Merci à vous deux, merci Hubert.
Alors chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Gilles Atatsmon et de son groupe The Orient House Ensemble. Le morceau s'appelle Paris et est tiré de l'album Songs of the Metropolis, disponible en téléchargement sur contreculture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.